Périscope, l'émission des littératures sous-marines, mais pas que. Aujourd'hui dans Périscope, nous vous proposons de rencontrer Christian Garcin, l'auteur de La Piste Mongole. Bonjour. Aujourd'hui donc, Christian Garcin, bonjour.
Bonjour.
Aude.
Bonjour.
Aude qui vous a présenté, si vous êtes des auditeurs assidus, vous avez dû écouter le mois dernier la présentation que nous a faite Aude de La Piste Mongole aux éditions Verdier. Donc si vous n'êtes pas des auditeurs assidus, Aude, tu peux nous faire un petit point, présentation ?
Alors, La Piste Mongole, c'est un livre irrésumable, donc je te remercie de me demander de le résumer.
Non, pas de résumé, non.
Alors, tu veux que je répète en petit ce que j'ai dit le mois dernier ?
Entrez vite.
Bien, écoute, c'est un roman qui part d'une histoire assez simple. Quelqu'un a disparu et des personnages vont suivre sa trace. Vont croiser d'autres personnages qui ont fait des rêves prémonitoires qui les ont amenés là. Et
parce que tout... les rêves, ça change aussi la vie réelle.
Certes. Et puis voilà, tout ce petit monde se retrouve par des hasards qui n'en sont pas. Et tout ça au milieu de paysages grandioses, fantastiques, immenses et déserts, qui sont des grands, qui vont du grand lac Baïkal aux forêts sibériennes et puis jusqu'en Mongolie.
Voilà.
Et dans des déserts, voilà.
Pour commencer justement, en fait il y a quelques temps, on avait présenté un autre bouquin, pas du tout de vous, qui s'appelait Un guide de Mongolie, et d'un auteur serbe, et qui ne parlait pas du tout de Mongolie. Et alors, comme La Piste Mongole, ça parle un peu, mais pas trop, de Mongolie, ça se passe un petit peu, est-ce que la Mongolie, ça serait... aujourd'hui, une nouvelle terra incognita pour l'imaginaire, en fait.
Ça peut se faire, mais en le guide, le livre serbe, je ne l'ai pas lu, mais effectivement, j'en avais entendu parler, ce guide dont j'ai oublié le titre, mais
guide de Mongolie.
C'est ça, et oui, qui ne se passe pas du tout en Mongolie. Oui. Mon roman quand même s'y passe un petit peu, c'est-à-dire que dans la deuxième partie, il y a trois personnages qui partent ensemble à travers la steppe mongole. Bon. Et puis ça répond aussi à des voyages que j'ai fait réellement en Mongolie. Donc ça, c'est un roman dans lequel il y a beaucoup d'imaginaire et il y a également du surnaturel. Enfin, et puis un mélange de rêve et de réalité, et tout ce qu'on veut. Mais il y a du réel aussi. Et ce réel, c'est à travers ce qu'il est dit de la Mongolie en général. Et puis également d'ailleurs de la Chine à un moment donné. Bien. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement la Mongolie aujourd'hui soit peut-être un endroit où une espèce de terra incognita, c'est possible. C'est-à-dire que c'est un pays qui est mal connu, qui est immense, qui fait 3 fois ou 4 fois la France, je ne sais plus, et qui contient 3 millions d'habitants, dont le tiers est à Oulan-Bator, dans la capitale, ce qui fait qu'il nous reste, si mes calculs sont bons, 2 millions d'habitants pour 3 fois la France, ou 4, j'ai oublié. Ce qui fait une densité relativement faible. Et alors, on peut habiller ça comme on entend. Et quand on se balade en Mongolie, alors la Mongolie, ce n'est pas un pays plat, comme on imagine. C'est un pays, il y a effectivement l'est du pays qui est très plat, qui est comme une table, quoi, vraiment, un tapis de billard, disons. Il y a le centre qui est plutôt, pour faire très vite, qui est plutôt vallonné, en quelque sorte, qui est la steppe, quoi. Et puis, il y a l'ouest, les montagnes de l'Altaï, tout ça, qui est beaucoup plus montagneux. C'est un pays dans lequel la vue, quoi qu'il en soit, porte très loin. Mm-hmm. Les ciels sont absolument immenses. Et il y a une espèce d'exaltation de l'immensité qu'on perçoit, qu'on ressent tout le temps, quoi. Tout le temps. Alors après, l'imaginaire pour travailler là-dessus, bien sûr. Même si on n'y est pas allé.
Oui, voilà, parce qu'en fait, on a l'impression que les frontières dans le roman sont assez floues. Et ça permet également, je ne sais pas, hein, est-ce que ça permet de bousculer les frontières du roman, justement ? Ça ouvre la création littéraire.
Disons, enfin, si c'est ça, en tout cas, ce n'est pas un projet préalable. Il se trouve que si ce roman prend place en Mongolie, c'était prévu de longue date pour moi. C'est-à-dire qu'il prend. C'est un roman qui n'est pas le troisième volet, aussi, qui est le troisième volet d'un triptyque, si on peut dire. Ce n'est pas une trilogie parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu les deux précédents pour lire celui-là, mais il y a malgré tout un triptyque dans la mesure où il y a un personnage et plusieurs personnages qui sont communs à trois romans, dont celui-ci, donc le dernier volet. Et dans le roman précédent, tandis que je l'écrivais, le roman qui s'appelait La Jubilation des Hasards, bon, je prends du début le triptyque, il y a trois romans, un qui s'appelle Le Vol du Pigeon Voyageur, un qui s'appelle La Jubilation des Hasards, et celui-ci, La Piste Mongole. Le deuxième, La Jubilation des Hasards, était construit en miroir par rapport au premier, avec des thèmes qui se répondaient, et puis des inversions de thématiques, si l'on veut. Dans le premier, il y avait un voyage vers l'Est, dans l'autre vers l'Ouest. Dans le premier, on partait à la recherche d'un personnage vivant. Le personnage qui s'appelle Tramonti partait à la recherche d'un personnage vivant qu'il ne retrouvait pas vraiment. Dans le deuxième, il partait à la recherche d'un personnage mort qu'il retrouvait. Bon, une espèce de structure comme ça. Et il se trouvait que dans ces deux romans, il était question à un moment donné de Mongolie, dans des conversations, de Sibérie. Si bien que je m'étais dit, tandis que j'écrivais le deuxième, que le troisième livre, si j'en écrivais un, se passerait en Mongolie et en Sibérie. Et que ce serait le personnage Tramonti, donc, qui disparaîtrait. C'est lui qu'on le rechercherait. Et c'est pour cela que je suis parti en Mongolie, en Sibérie, pas tant pour faire un guide de voyage, parce que ça m'intéresse moyennement, mais simplement pour voir un peu les lieux dans lesquels j'allais mettre en place ce roman. Donc, ce n'était pas, au départ, un désir d'habiller durablement, enfin, d'investir des paysages imaginés ou fantasmés. C'était un projet, quoi, un projet littéraire, enfin, si je puis dire, c'est-à-dire, enfin, je peux le dire d'ailleurs, je le dis, c'était un projet de faire en sorte que ce roman-là se déroule dans ces régions-là, qui par ailleurs m'attirait énormément, mais ça c'est assez commun, je crois que pas mal de gens sont attirés quand même par ces points extrêmes du globe où il y a très peu de densité humaine, il y a beaucoup d'immensité.
Oui, c'est étendu.
Ouais. Voilà.
Ben pour poursuivre un peu dans ce choix de la Mongolie, moi, il y a quelque chose qui me semble curieux ou contrasté dans votre œuvre. C'est que donc vous avez publié une bonne vingtaine de titres, hein, chez des éditeurs différents. On y reviendra en fin d'émission. Mais disons qu'il y aurait il y a un certain nombre de livres comme J'ai grandi par exemple qui témoignent d'une sorte de volonté d'ancrage fort, de racine, de creuser quelque chose qui va dans la profondeur, la mémoire. Et puis à côté de ça, il y a les fictions qui s'exilent dans des espèces de suspens, des endroits où on est à peu près personne, où on est à peu près nulle part. Et voilà, il y a ce comme si d'un côté, on creusait dans la profondeur et de l'autre, on s'inventait en se déracinant.
Sans doute, mais c'est peut-être pas aussi incompatible, ces deux choses-là. J'ai mis longtemps à admettre que j'avais plusieurs mains, pour ainsi dire. C'est-à-dire que le premier texte que j'ai écrit était des textes plus resserrés, disons, effectivement, qui plongeaient de manière plus verticale dans une espèce de passé personnel ou commun, enfin je ne sais pas comment dire, c'était des textes plus brefs, c'était pas des romans, c'était des fictions mais pas toujours, c'était des textes dans lesquels il y avait plus d'évocation que de dénotation, il y avait plus de suggestions que de choses vraiment affirmées, et puis ce n'était pas des romans tout simplement quoi. Et lorsque j'ai commencé un jour j'ai écrit un texte qui est parti comme ça, qui est parti dans la narration. La fiction s'est déroulée en quelque sorte, s'est déroulée loin, je ne savais pas très bien où, ça s'appelait Sortilège, c'était un roman. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un appel quoi, de l'écriture, de la fiction. Le personnage dans son roman qui s'appelle Sortilège part, fuit. Et ça a correspondu à un départ de ma part dans la fiction également, dans la fiction plus longue, la fiction construite. Et l'écriture de roman, l'écriture romanesque a commencé à ce moment-là. Alors donc il y avait ces deux pôles, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois effectivement une écriture romanesque qui m'entraînait loin, mais géographiquement effectivement, la plupart de mes romans quand même sont des livres dans lesquels on bouge beaucoup, enfin le personnage se déplace pas mal pendant divers coins du monde. Tandis que par ailleurs, la première main, si on peut dire, qui était la mienne auparavant, eh bien, je continuais à l'exercer et à écrire des textes plus resserrés, des textes qui sont des interrogations personnelles sur ce qui fait l'histoire, la mémoire, sur l'art, enfin. Et voilà, j'essaie de maintenir les deux caps, quoi.
D'une certaine manière, il y a un peu ce contraste aussi dans la piste mongole avec deux motifs qui sont un peu les matrices ou les noyaux de l'ensemble du roman. C'est ce motif du terrier qui revient justement dans les différents romans là qu'on a cités, où des personnages comme ça vont s'enfouir le plus profondément possible. Et puis, et se resserrer sur eux-mêmes en quelque sorte. Et puis, le rêve de Chen, dans lequel on retrouve, donc, au début de la deuxième partie, à peu près tous les personnages qui vont se redistribuer ensuite dans le roman, avec l'aigle Lélio, la chamane, etc. Et donc, voilà, il y a d'un côté le terrier, l'enfouissement, et puis de l'autre, les rêves, les télépathies, les migrations, tout ce qui relève d'une mobilité, d'un déplacement un peu flottant et un peu irrationnel. Voilà.
J'ai pas bien compris la question, mais...
Il n'y en avait pas.
Mais je peux
répondre quand même.
Rendir. Ouais, parce que j'ai lu un truc dans je ne sais plus quel... Sur l'histoire des terriers.
Oui.
Et qu'en fait, on vous aurait raconté la vraie histoire après que vous l'auriez écrite.
Ah non, ça c'est autre chose. Non, non, oui. Enfin, bon, alors le terrier, bon, c'est un thème, si on veut, voilà. Comme j'avais dit, je ne sais plus à qui. L'avantage quand on est écrivain, c'est que quand on a un thème récurrent comme ça, on parle de thème récurrent. Si on ne l'est pas, on parle de névrose obsessionnelle. Donc, voilà, j'ai un thème récurrent.
Non, tu as une névrose obsessionnelle.
Absolument pas. Bon, voilà, pour des raisons que je n'ai pas envie de connaître, c'est quelque chose qui... J'ai toujours été plus ou moins attiré par les endroits reclus, et les cellules, les deux moines, les choses comme ça. Bon. Alors, il y a des lectures aussi qui ont fait écho à ça. C'est certain que sans doute lire... je sais pas, il se trouve que ce thème du terrier, bon, ben, on le retrouve chez Kafka, on le retrouve chez Murakami, on le retrouve chez d'autres auteurs qui me sont chers. Et ça a résonné sans doute avec des fantasmes, enfin je ne sais quoi, que j'avais en moi et que j'ai choisi d'expérimenter aussi de manière littéraire. Bon. Et dans ce roman-là, comme dans La Jubilation des Hasards, effectivement, il y a ces histoires d'enfouissement de personnes qui choisissent à un moment donné de s'enfuir dans la terre ou dans des grottes à l'écart. Quoi, bon. Alors, ce à quoi vous faites allusion, c'est une fois que j'avais terminé ce roman, La Piste Mongole, dans lequel il y a quand même une épidémie d'enfouissement, quoi, vraiment, je suis parti au Japon. Et juste avant de partir au Japon, j'ai lu un livre sur la mystique japonaise et j'ai découvert qu'il y avait des chamans japonais, une secte chamane japonais qui était la secte des Yamabushi, qui avait été récupérée, si on peut dire, par une secte ésotérique du bouddhisme au Xe siècle et intégrée ensuite donc au bouddhisme. Et les bouddhistes qui perpétuaient ces pratiques-là. Hein. Alors les chamans Yamabushi, qu'est-ce qu'ils étaient ? Comme tous les chamans, ils étaient des médecins, des jeteurs de sorts, des guérisseurs, qui pratiquaient parfois avec un peu de violence la malédiction, les sorts qu'ils jetaient, etc. Bon, c'était ambigu, c'était à la fois violent et guérisseur. Enfin, ça guérissait, mais ça pouvait aussi causer du tort, quoi. Dont on dit qu'ils étaient télépathes et je ne sais quoi, bon. Et ils avaient un rituel qui était qu'à la fin de leur vie, quand ils sentaient que leur vie allait s'achever, ils s'enterraient dans des puits, dans des terriers, dans des trous qu'ils creusaient ou faisaient creuser. Et préalablement au fait de s'enfouir, ils suivaient un régime alimentaire extrêmement strict pendant 5000 jours, je crois bien. par étapes. C'est-à-dire que par étapes, ils se privaient d'abord de viande et de poisson, mais ça, c'était depuis des années qu'ils étaient absolument végétariens. Ensuite, ils se privaient des cinq céréales essentielles, le l'orge, le blé, le soja, le pois et je ne sais plus la cinquième, en ne mangeant plus que ce qui était que ce qui n'était pas cultivé, hein, c'est-à-dire les herbes sauvages, les glands, les fruits, voilà. Et pendant 1000 jours, chaque fois, et, ou 1500 jours, je ne sais plus. Et ensuite, leur corps peu à peu se desséchait, toutes les graisses fondaient, et leur corps se rétrécissait, en quelque sorte. Et à la fin, ils ne se nourrissaient plus que de l'écorce des arbres, qui porte un nom en japonais dont j'ai oublié, que j'ai oublié. Bien, si bien qu'ils se momifiaient quasiment de leur vivant. Et à l'issue de cela, ils s'enterraient dans des trous, dans des terriers, et avec une clochette et un petit tuyau en bambou pour respirer. On recouvrait le trou d'une clé de branchage, et puis ils agitaient la clochette de temps en temps pour indiquer qu'ils n'étaient pas morts. Et puis au bout d'un moment, la clochette ne retentissait plus, donc ils étaient morts, si bien que, après divers préparatifs, ils étaient complètement momifiés, mais vraiment desséchés de l'intérieur, et on les exposait dans le monastère. Et aujourd'hui, on les voit encore dans l'ouest, dans le nord-ouest de Honshu, dessous d'Hokkaido, il y a toute une région, c'est originaire de cette, enfin, c'est dans cette région-là que ça se passait. On voit encore, il y a des monastères dans lesquels sont exposées ces momies de chaman Yamabushi. Les bouddhistes donc ont continué ces pratiques-là. Hein. Et ce sont des gens dont on, pour certains, il y a, je crois qu'il y en a 25 ou 30 qu'on peut voir dans l'ouest du Japon. Voilà. Il y en a encore d'autres qui sont sans doute enterrés. Ces pratiques ont été interdites par le gouvernement japonais au début du XXe siècle. Le dernier cas avéré est de 1903. Voilà, c'était un vieil homme de 76 ans qui s'est desséché, momifié et qui a péri comme ça. Alors moi qui venais d'écrire un roman dans lequel les personnages s'enterraient dans des trous et se momifiaient, puisqu'il est question de momie plusieurs fois, ben, je trouvais ça formidable, quoi, parce que je venais de l'achever, le roman, et je tombe là-dessus. Alors ça, j'en parle dans un prochain livre de Yamabushi. Voilà. C'est un peu long, excusez-moi.
En tout cas, il y a, sans faire de vous un dangereux mystique oriental, il y a une espèce de continuité aussi, de récurrence, encore une fois, non seulement dans les livres, là, dans la suite de romans, Sortilège, Le vol du pigeon voyageur et jusqu'à la piste mongole, mais aussi d'une autre manière dans les biographies fictionnelles, par exemple, que vous avez écrites. Il y a quand même ce lien toujours avec la disparition. C'est dans les romans, on est toujours en quête d'un disparu, et puis les biographies, d'une certaine manière aussi, c'est un rapport à des disparus qui, eux, reviendraient à la vie, et toujours cette disparition... Elle est en lien un peu avec quelque chose qui tient d'une renaissance ou de, hein, ce sont des cadavres de momies. D'ailleurs, cette image m'avait frappée, des cadavres de momies qui ressemblent tellement à des fœtus d'enfants dans des ventres. Voilà, il y a toujours ce lien entre disparition et renaissance. Et ben voilà, qu'en pensez-vous ?
Oui, mais ça, je peux le constater en effet, mais je peux pas vraiment commenter le lien avec la, parce que là ça entraînerait vers une psychologisation de ce que j'écris, ça j'en suis incapable. Alors, mais le lien avec la disparition, bon, oui, là, j'aurais tendance à penser que c'est, enfin, souvent le geste au sens large artistique, enfin, du peintre ou de l'écrivain ou la fabrication d'objets fictionnels ou d'objets picturaux qui sont aussi des objets fictionnels d'ailleurs, a quelque chose à voir avec la disparition, avec le fait de désirer, en tout cas, retrouver quelque chose de disparu. Quelque chose, quelqu'un, quelques-uns, tout cela à la fois, est-ce que je sais. Alors, ce que je sais, en tout cas, de manière certaine, c'est que le début de l'écriture, pour moi, a correspondu à ça, quoi. A correspondu à suivi une appréhension très nette de la disparition dans le cas dans les circonstances suivantes, c'est que je cherchais dans des relevés généalogiques des traces de mes ancêtres et je fouillais les archives municipales du village où je me trouvais et puis en voyant ces pages dans lesquelles des vies se résumer à quelques lignes, c'est-à-dire naissance, mariage, mort, et puis parfois même l'une des trois manquait. Enfin, la mort en général était là, mais la naissance parfois manquait. Plus on remontait dans le temps, moins c'était rigoureux, disons. Et de voir tous ces, de voir ce puits immense qui s'ouvrait devant moi, de toutes ces vies qui s'accumulaient les unes sur les autres. Ces gens dont la biographie se résumait à rien, mais qui avaient une vie aussi longue ou riche, que la plus longue souvent que la mienne. J'avais eu un sentiment de vertige, quoi, quasiment. Et je sais que les premiers textes que j'ai écrits, qui sont des fictions, ce qu'on appelle aujourd'hui des fictions biographiques, proviennent directement de là, c'est-à-dire proviennent de ce vertige que j'ai éprouvé en voyant ces dizaines, ces centaines, ces milliers de personnes qui avaient vécu et qui n'étaient plus rien. Et dans ces fictions que j'écrivais, j'écrivais des vies très brèves qui se résumaient en quelques phrases de personnages historiques, mais aussi de personnages imaginaires, et parfois de noms de personnages que j'avais croisés dans ces recherches généalogiques. Enfin, donc, c'est le premier livre que j'ai écrit, ça. Donc le début de l'écriture, ça provient directement de là, la sensation de la perte et de la disparition, et de l'exhumation aussi, le fait d'exhumer. En quelque sorte, non pas de redonner à la vie, ce serait absurde et légèrement présomptueux, mais oui, d'exhumer des cadavres. C'était un peu ça, quand même. Très nettement, c'était ça.
Et alors, ça ne rejoint pas du tout, mais en même temps, ça m'évoque l'étonnant rapport au personnage qu'on a spécialement dans la piste mongole. Avec vraiment l'impression que les personnages sont doués d'une seconde vie. C'est-à-dire que, bien sûr, on va croiser des personnages qui ont une origine, disons, dans la réalité, des gens que vous avez croisés, votre guide, des rencontres comme ça faites sur la route, qui vont devenir des personnages. Il y a les personnages qui viennent d'autres de vos romans, et un grand nombre aussi. Il y a les personnages qui viennent de romans d'autres, et d'écrivains avec qui vous entretenez d'ailleurs des relations d'amitié, comme Fay ou Volodine. Et puis il y a les personnages qui deviennent des personnages de leurs collègues personnages. Hein? Et alors voilà, qu'est-ce que font vos personnages dans la vraie vie?
Oula, dans la vraie vie, mon Dieu, c'est quoi là, la vraie vie? Oui, bon, c'est un roman qui procède par couches comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une narration principale qui est la recherche d'un personnage, Tramonti. C'est un Français qui s'appelle Traunberg, comme son nom ne l'indique pas, il est Français, et qui est à la recherche de Tramonti, bon. Au-dessous de ça, il y a une autre strate narrative qui va répondre à celle-ci, qui est constituée des rêves d'un autre personnage, un Chinois, qui est des voyages chamaniques d'une chamane mongole, et essentiellement de ça d'ailleurs, et des récits, des histoires que raconte le Chinois en question, puisqu'il est apprenti écrivain, donc il écrit des histoires dont certaines sont données dans le livre. Tout ça vient constituer une deuxième couche, en quelque sorte, et entretient des liens avec la trame principale, qui est la recherche de Tramonti, ce qui fait que dans les histoires que raconte le Chinois, par exemple, eh bien, les personnages qu'il croise dans sa vraie vie, puisqu'il est question de la vraie vie, hein, c'est-à-dire dans sa vraie vie à lui, en tout cas, il les réintroduit dans ses fictions sous des apparences différentes. Bien. Après, il y a peut-être un troisième niveau, c'est pas impossible, c'est des passerelles qui sont tendues vers mes autres livres. C'est-à-dire, dans ce livre-là, il y a des passerelles vers les précédents dont j'ai parlé, La Jubilation des hasards et Le Pigeon Voyageur, mais aussi vers Sortilège, mais aussi vers un autre roman qui s'appelle Du bruit dans les arbres. Il y a des personnages communs qu'il n'est pas utile de connaître pour lire le livre, mais si on les a lus, bon, ben, voilà, on les retrouve. Enfin, il est question d'eux au moment donné. Et puis, alors, peut-être qu'il y a encore un niveau au-dessous, alors là, qui est vraiment très ludique, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai piqué 3-4 personnages à des amis, en leur demandant l'autorisation, bien sûr, et je les ai énumérés dans une liste de personnages qui succombaient à cette maladie de l'enfouissement. Alors, donc Eric Fay, Thierry Hess, Antoine Volodine et Bernardo Carvalho, l'écrivain brésilien, m'ont obligément prêté un de leurs personnages que j'ai fait disparaître dans des terriers. Voilà.
Il y a ça d'ailleurs, parce que c'est un gros roman, c'est un roman qui nous fait voyager, et à chaque fois on part dans différentes vies, donc, rêver, voler ou pas, et à chaque fois, nous lecteurs, on sait où on est, et on n'est jamais perdu, et on a l'impression qu'il y a une forme justement de la part de l'écrivain, de jubilation à retrouver les personnages. Et voilà, comment on fait?
C'est un roman, comme je l'ai dit quelquefois, qui n'est pas compliqué, mais qui est complexe, c'est certain. Le danger, c'est quand on en parle, c'est plus compliqué que quand on le lit, en vérité. Mmh. Voilà. Alors, effectivement, devant une architecture assez, je ne sais pas comment dire, sophistiquée, mon souci était de ne pas perdre le lecteur, justement, et de disséminer des indices, ici et là, pour que le lecteur s'y retrouve, des petits cailloux blancs du petit poussé, des indices textuels, des points de repère, des garde-fous, bon, pour baliser la route, quoi, et que le lecteur, justement, ne se perde pas entre les différents niveaux de narration, entre les différents personnages, etc. Et c'est vrai qu'il y a une jubilation à cela, il y a la jubilation du détective privé, quoi. Mm-hmm. Ou du moins du démiurge qui laisse... Alors, bon, je pensais souvent à Borges, qui est une de mes... Bon, qui était un écrivain que j'ai intégralement et beaucoup lu, sur lequel je vais m'écrire, donc que je connais... Enfin, dont j'ai fréquenté l'œuvre d'assez près à une époque, et qui, avec une malice extraordinaire, avait un goût immense de l'indice et du détail. C'est-à-dire qu'il se met effectivement des petits indices textuels dans ses nouvelles, mais d'une nouvelle à l'autre également pour faire se correspondre des nouvelles, mais d'un recueil à l'autre également pour faire se correspondre des recueils. Et puis on pouvait reconstituer comme ça tout un ensemble, un archipel de littéraire qui dessinait peu à peu, finalement, la figure de Borges. Bon. Alors, je n'ai pas cette ambition-là. Mais ce goût de l'indice, en tout cas, provient de là, sans doute. Ouais. Mais ça me paraissait nécessaire pour guider, oui, effectivement, pour tenir le lecteur par la main, quand même, un petit peu. Voilà.
En tout cas, en effet, la piste mongole marque, je trouve, un tournant, un petit peu, enfin, une nouveauté, une amplification par rapport au précédent roman, dans la construction narrative, là, quand même, qui vraiment fait proliférer, puis avec bonheur, avec malice et avec... avec un vrai plaisir pour le lecteur, hein, les narrateurs, les récits, les personnages, etc. Et ça va aussi avec une nouvelle langue, c'est-à-dire que je trouve que ce roman est beaucoup plus hétérogène dans ses langages, du fait aussi de ses personnages différents, et qu'il y a vraiment un contraste entre un petit peu le contraste qu'il y a en fait entre un personnage comme Rosario, qui est comme Tramonti, un personnage un peu neutre, un peu vacant, un peu disponible, élégant, tenu, et puis la chamane obèse, complètement saugrenue, loufoque, le jeune chêne tout frétillant, voilà. Et ce contraste là on va le retrouver dans la langue, avec une langue qui est toujours avec un humour distancé un petit peu, et puis d'une sobriété très tenue, voilà. Et puis d'un autre côté, de la trivialité, du loufoque, du débridé, du...
C'est le cas de le dire.
Voilà, du débridé, rebridé. Mmh. Et ça, me semble-t-il, ça procède d'une... je sais pas, d'une veine nouvelle qui...
Ça coule de source, disons. C'est-à-dire que le fait d'utiliser à ce point des masques... Des narrateurs différents, à la fois donc une chamane mongole qui présente la particularité de ne jamais se souvenir des voyages qu'elle accomplit, des voyages intérieurs, chamaniques qu'elle accomplit. Ce jeune chinois qui est effectivement tout jeune, qui a 23-24 ans et qui est un peu, oui, un peu sautillant, excité comme ça. Ce français qui est beaucoup plus raisonnable, objectif et raisonneur même. Tous ces personnages-là induisaient, oui, des langues, enfin... des langues différentes, quoi, en quelque sorte. C'est l'avantage, effectivement, pour ce roman-là, d'avoir pris... Enfin, la polyphonie, c'est pas quelque chose que je découvre. Enfin, je veux dire, mes précédents romans, certains de mes précédents romans étaient aussi de romans polyphoniques, que ce soit l'embarquement ou la jubilation des hasards, je ne sais plus, mais peut-être pas, mais en tout cas, l'embarquement du bruit dans les arbres, par exemple, oui. Mais là, c'était vraiment des voix qui pouvaient effectivement, qui correspondaient à un même type de personnage. Donc, c'était plus, il y avait moins de différence dans les voix, quoi, dans la langue et dans le vocabulaire et dans la syntaxe. Enfin, voilà. Tandis que là, c'est vraiment des personnages très marqués et assez divers. Et effectivement, ça a provoqué bien des écritures différentes, quoi.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Grenouille, vous écoutez toujours Périscope et vous êtes toujours avec Christian Garcin. À propos de personnages, j'aimerais bien savoir ce qu'est une Baba Yaga.
Baba Yaga, comment on dit, Baba Yaga, c'est ça? Oui, c'est une sorcière. Baba Yaga, c'est une sorcière des contes russes. Hein, c'est un personnage très populaire en Russie, mais bon, qui est assez connu aussi finalement. Je rencontrais beaucoup de personnes qui la connaissaient parce que bon, ils ont dû lire des contes russes. C'est une sorcière, hein, une sorcière qui vit dans une cabane qui se déplace sur des pattes de poule, la cabane. Et voilà, c'est un personnage très très qu'on croise souvent dans le folklore russe. Et dans ce livre-là, la piste mongole, moi j'ai utilisé une espèce de syncrétisme russo-sino-mongol. Enfin, mongol assez peu, parce que je ne connais pas très bien le folklore mongol, mais il y a des personnages, des noms de personnages qui viennent des contes russes, oui, Baba Laga, puis d'autres, Kochei l'immortel, et Vasilissa la très belle, et d'autres qui sont des personnages des contes russes. Il y a aussi des personnages de contes chinois ou du livre Les Transformations, qui est un livre taoïste, donc qui est un livre de magie, de contes magiques, disons. Voilà, une espèce de syncrétisme extrême oriental, disons, qui n'est pas très rigoureux. Alors, quelqu'un qui serait un spécialiste de ces choses-là pointerait diverses élucubrations, mais voilà, c'est mon syncrétisme personnel. Mmh. Quoi. Mmh.
Alors, une autre question, toujours en Russie, il y a un des chapitres que j'aime beaucoup dans la piste mongole qui s'intitule L'autre monde, et qui est d'ailleurs le titre d'un autre de vos livres. Et alors dans ce chapitre, les deux jeunes ados se baladent un petit peu amoureusement, un peu comme on part en pique-nique, enfin bref. Et puis au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans la forêt devient de plus en plus obscure et puis le cri du glouton retentit. Et alors au fur et à mesure, du coup, la réalité, disons, le décor prend une espèce d'intensité très très grande. Et puis tout d'un coup, justement, ça bascule dans l'autre monde. Quelque chose qui serait de l'ordre de l'absolument effrayant, dans lequel on ne peut pas pénétrer. Et alors j'aime beaucoup parce que du coup, il s'arrête et il rebrousse chemin. Donc on est comme ça à la lisière de ce qui pourrait advenir. Mmh. Et puis, hop, on y reste. Et ça, me semble-t-il, c'est un peu le principe de la veine fantastique qui est à l'œuvre dans ce roman et puis dans pas mal d'autres, puisque c'est un genre, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, qui une source.
Oui, les deux ont, à un moment donné, oui, font demi-tour. Peut-être qu'ils ont peur, je ne sais pas très bien ce qui leur arrive, mais ils ont une certaine appréhension. C'est-à-dire que tous les deux sont peut-être, s'ils avaient continué, peut-être que le jeune Pékinois qui s'appelle Chen aurait effectivement ressenti l'appel, puisqu'il suppose que son grand-père était un chaman. Il aurait peut-être ressenti lui-même l'appel de la forêt, sans paraphraser London, mais puisqu'on dit que l'appel chamanique souvent provient de... Parmi les différentes vocations chamaniques, il y a une filiation qui saute une génération, donc de grand-père à petit-fils. Et puis, il y a le rêve, notamment les rêves érotiques, dont Chen est assez spécialiste. Et puis, il y a aussi cet appel qui peut provenir de la forêt. La forêt étant l'autre monde par excellence depuis toujours. Hein. C'est l'imaginaire médiéval, en tout cas occidental, a fortement imprégné de cela, mais dans d'autres cultures également. Quant à l'autre, la jeune fille qui l'accompagne, qui est une jeune russe qui s'appelle Irina, elle est à la recherche d'un endroit, elle est peut-être à la recherche d'un endroit où le monde des morts et celui des vivants communiqueraient. Voilà. Et s'ils avaient tous les deux continué d'avancer dans cette forêt extraordinaire, et secrète et immense, qui est la forêt, une des forêts autour du Baïkal, enfin sur la rive est du Baïkal, peut-être auraient-ils ressenti cet appel. Mais effectivement, ils sont un peu effrayés, une espèce d'appréhension, et ils y renoncent, ils font demi-tour. Et ce chapitre-là, sur le bord du lac Baïkal, moi je l'aime bien aussi, alors voilà, pour le coup. Et je sais pourquoi, parce qu'il provient d'une image qui m'a fortement marqué, qui n'a strictement rien à voir avec l'Extrême-Orient, ni avec le Baïkal, ni avec la Chine ou la Mongolie, ou je ne sais quoi, qui vient d'un film de Samuel Fuller, qui s'appelle, en français, Le port de la drogue. Ce qui est une absurdité, parce qu'il n'est pas question de drogue du tout, mais c'est un film de policier, enfin d'espionnage, mais pas d'espionnage, enfin, ouais, un film policier, disons, avec Richard Widmark, voilà. Et dans ce film, Widmark habite à New York, sur une cabane en pilotis, dans une cabane sur pilotis, sur l'Hudson River. Et quand j'ai vu cette cabane dans le film, alors il y a une passerelle pour y accéder, et puis donc Widmark habite là. Et puis dans sa cabane, il y a une trappe. Et lorsqu'on vient le chercher pour diverses affaires, parce qu'il est un peu pickpocket, quoi. Et puis là, il a prélevé des microfilms extrêmement, sans faire attention, sans faire exprès, évidemment, dans un sac d'une nana dans le tramway, dans le métro, il a piqué des microfilms très compromettants, donc on le recherche, etc. Donc il soulève la trappe et il se cache sous la cabane. Alors il y a l'eau clapotante de l'Hudson River, comme ça, là, qui fait des reflets sur le plancher au-dessus de lui. Puis les flics qui arrivent, qui ne voient personne, qui repartent. Et bon, alors, je ne sais pas pourquoi, c'est une scène comme une autre, mais cette scène m'avait scotché, quoi, complètement. Et je m'étais dit, cette cabane, je vais m'en servir. Et je m'en suis servi sur le lac Baïkal. Voilà. C'est une cabane où il y a également une trappe. Et on passe au-dessous. La particularité dans le roman, c'est que c'est une cabane qui est invisible à certains, mais visible pour d'autres. Voilà.
Et c'est ça, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'initiations manquées ou d'initiations réussies. On peut voir les choses que si on veut les voir, d'une certaine manière. Et alors pour terminer un petit peu avec sur cette veine fantastique et aussi pour élargir un peu à l'ensemble de votre œuvre, j'ai été frappée par à toute fin du petit texte là qui s'appelle Du Baïkal au Gobi, qui est une sorte de proto piste mongole puisque c'est un récit de voyage. Qui va ensuite être transposé de manière romanesque dans la piste mongole. Bref, à la fin, vous parlez, vous avez une très jolie expression où vous parlez de ces instants d'absence qui finalement font partie du meilleur du voyage peut-être quand on est revenu et puis que tout d'un coup, dans le bruit du quotidien, des gens, etc., tout d'un coup, on s'échappe vers là où on n'est pas ou là où on était. Et alors, cette expression des instants d'absence, on la retrouve aussi dans Les Vies volées.
Ah bon?
Eh oui. Ben voilà. Et voilà, qu'est-ce que c'est que ces instants d'absence?
Vous l'avez dit, hein. C'est la sauvegarde. Le monde réel, moi, il ne m'emballe pas énormément quand même. Pas toujours en tout cas. Donc, voilà, on peut tourner le dos, mais alors tourner le dos, c'est grossier. Alors on peut s'échapper, comme ça, effectivement, retrouver des lieux. Repenter, retrouver des souvenirs, retrouver des souvenirs non vécus aussi, ça peut exister ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait écrire aussi, les souvenirs non vécus. Et c'est s'échapper un peu, c'est faire un pas de côté, quoi. Faire un pas de côté pour pas.
Voilà. Et retrouver des personnages aussi.
Pourquoi pas. Ou alors en inventer.
Alors, Christian Garça, avant que vous nous échappiez justement, rappelons un petit peu que, donc, outre la piste mongole, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de titres parus chez des éditeurs divers, il y a Champvallon, Verdier, Gallimard et L'Escampette, qui sont les principaux du moins, avec des romans, des nouvelles, des biographies dont on a un petit peu parlé. Et puis rappelons.
Pas de biographie, c'est
des fictions biographiques. Ouais. Moi j'ai dit biographie fictionnelle tout à l'heure.
Quelle erreur.
Et bref, signalons en tout cas qu'en ce moment, donc, outre la piste mongole qui est parue en février, au mois de juin, va être réédité le livre des Vies volées dans les éditions Flammarion, dans la collection Étonnant Classique. Cette collection qui propose, outre le texte, des dossiers pédagogiques en direction des lycéens.
Ça fait quel effet ?
Ça fait quel effet ?
C'est formidable. Non, écoutez, j'imaginais pas un écrivain ce petit vivolé qui aurait une édition folio des années plus tard, et puis ensuite une édition parascolaire, comme ça, avec un dossier pédagogique. Alors j'ai reçu tout ça. Enfin, j'ai pas encore reçu le livre, mais j'ai reçu les épreuves. Enfin, j'ai vu le dossier pédagogique en question. C'est formidable, c'est très bien fait, c'est très bien. Tout est très bien. Mais évidemment, quand on a écrit soi-même ce sur quoi est bâti un dossier pédagogique, on est surpris de se dire, tiens, de constater ce qui peut être dit sur ce qu'on a écrit, quoi. Mais c'est pas faux, hein, loin de là. Mais, enfin, c'est un lieu commun de dire ça, mais ça outrepasse de très loin la conscience qu'on a lorsqu'on écrit, quoi. Lorsqu'on écrit, on n'a pas une conscience très... Enfin, on n'est pas dans l'inconscience, mais on n'est pas non plus dans l'inconscience très arrêtée de tous les thèmes, les échos, les symétries qui se font jour dans une œuvre, dans un livre, quoi. On est à la mi-chemin entre... c'est pas d'écriture automatique, mais c'est pas non plus quelque chose qui est complètement carré. On est à mi-chemin, à la lisière, très précisément, entre le conscient et l'inconscient, quoi. Encore une fois, on se nourrit de... On écrit des... Il y a des choses qui sont très conscientes, des repères qui sont conscients, des structures qui sont conscientes, et puis il y a tout ce qui n'est pas conscient, qui provient de... Bien de choses vues, entendues, oubliées, de souvenirs non vécus, comme je disais, de rêves, ce que je sais, enfin bon. Et tout ça, et de références, et tout ça fait son chemin. Alors, ça fait très plaisir de voir tout ça, c'est bien.
Oui, ouais, même d'être classique, d'être déjà classique.
Oh, mais alors, je ne suis pas le seul, parce qu'alors, dans cette collection-là, j'ai vu, il y en a beaucoup qui sont plus jeunes que moi,
ouais.
Encore. Donc, voilà.
On terminera peut-être en vous demandant vos projets à venir, les livres en chantier, les voyages en...
Alors, le livre en chantier, il y a deux petits livres qui sont déjà écrits, un tout petit dans la collection Texte au carré de Cadex, qui est un éditeur de poésie essentiellement, mais aussi de prose, qui est une nouvelle, en fait, qui paraîtra, je ne sais pas trop quand, d'ailleurs, début de l'année, je pense, avec une couverture d'un artiste que j'aime bien, que je connais bien, qui s'appelle Philippe Favier, et une préface de Christophe Fourvel, qui est un ami écrivain également. C'est le principe de la collection, c'est des textes format carré, assez courts, avec la couverture originale d'un artiste et la préface d'un autre écrivain. Bon. Et puis ensuite paraîtra un carnet japonais chez L'Escampette, où j'ai publié déjà des carnets chinois et mongols. Enfin, ça s'appelle du Baïkal au Gobi pour les mongols, mais les sibériens. Voilà, ensuite, bon, pour l'instant j'ai d'autres projets romanesques en tête, mais... J'en sais pas plus. Quant au voyage, je dois repartir en Sibérie l'année... Enfin, je devrais repartir en Sibérie l'été prochain, donc 2010. Mais là, vers le nord de la Sibérie, vers l'océan Arctique, descendre le fleuve Léna jusqu'à l'embouchure. Et revenir, et ensuite aller à Vladivostok, et voir ce que je pourrais faire de tout ça.
Bon, ben, on vous suivra en périscope.
Oui.
Merci.
Donc, on va faire un petit tour de table de tous les ouvrages qui sont là, sachant que si vous n'avez pas de crayon sous la main, de toute façon, vous retrouvez tout sur la page Périscope du site de Grenouille, grenouille888.org. Je sais pas. Si, oui, on le dit, la piste mongole chez Verdier. Parce que moi, j'aime bien Verdier, en fait.
Moi aussi.
Voilà. Oh, et ouais. Moi, ça me fait plaisir.
Justement, vous étiez aux 30 ans de Verdier, là, qui se fêtait à la Cité du Livre, en compagnie de Jean-Luc Arand et des deux pierres.
Jean-Baptiste Arand.
Jean-Baptiste, pardon. Et des deux pierres, Bergoglio et Michon.
Oui, hier soir. Ah oui, ben voilà, il y avait une rencontre.
Et ça fait quoi d'être chez un éditeur qu'on aime bien? Comment on y va?
Il vaut mieux être... Il ne vaut mieux pas être chez un éditeur qu'on déteste, de toute façon, ça c'est certain. Non, Verdier c'est très bien, je l'aime bien, mais j'aime bien aussi le petit éditeur L'Escampette, chez qui je publie des textes plus inclassables, disons. C'est des relations, c'est des rencontres. Enfin, pour moi, l'édition, ça a été des rencontres de personnages, mais réels, cela, absolument. Mm-hmm. Et c'est une affaire de camaraderie, quoi, disons. Ça a été ça à peu près tout le temps.
Bon. Ce sont des belles aventures et de belles histoires. Ouais. Voilà, et Verdier aussi. Donc on le redit, La piste mongole de Christian Garcin chez Verdier.
Donc précédé du Baïkal au Gobi chez Alice Campette. Quoi d'autre? Les Vies Volées, oui. Donc, qui en seront à leur troisième édition et que vous trouverez bientôt donc, chez les Étonnants Classiques aussi, à Flammarion. Et puis, bon, il faut... Quoi, on fait la liste?
Non, ce que tu as sous les yeux, ce que tu aimes bien.
Alors, y a toute la série donc, cohérente des récits, donc tirée de Sortilège, je ne me souviens plus de
Sortilège, c'était en 2000... Moi non plus, je ne me souviens plus. 2002, je crois. Un, deux. Bon.
Par là. Voilà. Le vol du pigeon au voyageur.
C'était antérieur, c'était en 2000, ça.
En 2000. Mmh. La jubilation des hasards.
Ça doit être 2005, ça, je pense.
Voilà, donc ces deux-là, c'est chez Gallimard.
C'est en folio d'ailleurs, je crois. Ouais.
Et puis on arrive, voilà. Et on en revient.
Voilà, oui.
À la piste mongole.
Bon, et dont on vous conseille la lecture si vous partez en vacances, et surtout si vous ne partez pas en vacances, comme ça vous aurez la joie de rester un petit peu avec Pagmajav, parce que moi, elle ne me quitte pas. Hein.
Ah, Pagmajav, c'est la chamane.
Oui, ouais. Après, j'en vois partout. Alors, je ne sais pas si c'est des moments d'absence, mais ouais, voilà, je vis très bien avec
J'espère
vos personnages.
J'espère pour toi que tu n'en verras pas trop à la plage, ça risque de faire peur.
Oui. Voilà, donc nous vous remercions pour cet entretien, cette rencontre, cette belle rencontre.
Merci à vous.
Christian Garcin, merci beaucoup. Et puis
bonne
c'est
lecture.
Un au revoir aussi pour nous, puisque c'est la dernière émission.
Enfin, vous aurez peut-être des surprises.
Ah.